BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est censé être la dernière séance de négociation entre les partenaires sociaux sur le dossier de l'emploi des seniors. Bah oui, sauf que cette négociation, elle a débuté hier matin à 9h et on y est toujours ce soir. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant, puis on en parlera dans 10 minutes avec le patron de la CFE-CGC, François Omri, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. On va reparler aussi beaucoup d'Atos ce soir parce que ça y est, le groupe a présenté ce matin un plan de refinancement. Et aussi parce que l'État, ça se confirme, va se mêler l'histoire pour sécuriser, vous savez, toutes les activités ultra sensibles d'Atos. On verra ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. On parlera tous avec nos experts qui arrivent bien sûr dès 18h30. Et puis avec eux, on parlera aussi de la colère des maires qui l'ont dit ce matin à Bercy. Pas question qu'on vienne nous demander des comptes, qu'on vienne nous réclamer des milliards, ces fameux milliards que le gouvernement cherche toujours bien sûr à récolter. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble bien sûr jusqu'à 20h. Bonne soirée.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Good evening business, le journal.
Donc, ça n'est toujours pas terminé ce soir. Bonsoir, Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Donc, les partenaires sociaux qui ont commencé à discuter hier matin pour conclure sur l'emploi des seniors, il y a eu des interruptions, des pauses. Mais on y est toujours ce soir. Qu'est-ce qui bloque exactement?
Tout bloque, à peu près tout bloque en fait. Les syndicats dénoncent toujours un accord totalement déséquilibré avec plus de droits pour les employeurs et rien pour les salariés. En fait, les organisations patronales campent sur une position très ferme. Elles refusent de lâcher quoi que ce soit. Elles s'obstinent toujours à vouloir mettre en place, vous savez, leur fameux CDI senior, ouais, qui a été rebaptisé, qui ne sera qu'à titre expérimental pour 5 ans, mais qui repose toujours sur le même principe. C'est un contrat qui leur permettrait d'employer un demandeur d'emploi de plus de 60 ans, mais de s'en séparer une fois sa retraite à taux plein atteinte, ce qui est une ligne rouge pour les syndicats. Derrière autre sujet qui fâche les syndicats, le patronat exige qu'un salarié qui a fait une reconversion professionnelle soit dans l'obligation de démissionner de l'entreprise à l'issue de sa formation. Ça aussi, c'est un problème pour les syndicats. Et derrière, en face, les syndicats n'arrivent pas à obtenir de contrepartie, n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit. Il n'y a à ce stade pas une seule de leurs 10 propositions communes qui a été retenue dans l'accord. Du coup, le ton monte, évidemment. Les syndicats sont de plus en plus énervés. Certains commencent même à se demander si finalement le patronat veut vraiment aller au bout de cette négociation ou s'il n'est pas en train de refuser, en fait, de ne pas assumer l'échec de cette négociation et qu'il ne pousse pas les syndicats à claquer la porte et à aller au clash. Là, on vient d'avoir une très longue interruption. Le patronat a un peu revu sa copie, vient de la transmettre au syndicat. Donc, on va voir si dans les heures à venir, la situation se débloque.
Ça peut encore durer quelques heures.
Ça peut encore durer jusqu'à tard dans la nuit.
Et bon, on suivra ça en tout cas ce soir, demain matin sur BFM Business. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous ce soir dans Good Evening. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a le dossier Atos. Les choses se précipitent depuis 48 heures. C'est que le groupe a dévoilé donc ce matin son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Dette qui est aujourd'hui de près de 5 milliards d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'autre confirmation, c'est que l'État va bien intervenir pour essayer de sécuriser ce qu'on appelle les activités sensibles. C'est ça Mathieu, finalement.
Oui, exactement. Vous savez, ces activités de cybersécurité et les supercalculateurs qui sont logés chez Atos, où il y a des contrats avec le ministère des Armées, également avec le commissariat à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, les commandes, par exemple, des centrales nucléaires. Bref, des activités, effectivement, très sensible et l'État s'est octroyé, ou en tout cas négocié, mais s'est octroyé avec Atos, ce qu'on appelle une action de préférence dans cette filiale qui est toujours logée dans la société qui est toujours appelée Bull aujourd'hui, qui avait été rachetée il y a une dizaine d'années. Et cette action de préférence, c'est effectivement une seule petite action de cette société Bull, mais qui donne des droits spécifiques à l'État. L'État, on a déjà dans beaucoup de groupes de défense, comme Safran, comme Airbus, comme Thales, où il y a aussi des activités très sensibles. Et cette action de préférence va lui donner des droits spécifiques en matière de gouvernance, sur un représentant de l'État au sein de la filiale française de Bull, qui aura du coup accès à l'information de cette société, donc sur les contrats, pour préserver les contrats notamment avec les entités publiques et sur les activités sensibles. Et puis il y aura également des droits de vote, peut-être, en tout cas Atos dit qu'ils ne sont pas encore négociés, mais des droits de vote au sein de ce conseil pour l'État, qui donc aura un pied certain dans ses activités. Et l'État a même négocié avec Atos un droit de préemption sur cette activité, ce qui veut dire que si demain, pendant ou après la restructuration d'Atos, un nouvel actionnaire, on va dire dérangeant pour l'État, oui, prenait ne serait-ce que 10% du capital d'Atos, l'État peut lever cette option et donc racheter de force cette activité de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Donc c'est très important. Ce ne sont que des mesures mises en place. Il n'y a rien de fait aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, l'État se laisse la possibilité de reprendre en main ses activités.
L'État qui monte au créneau, mais il avait prévenu il y a de ça quelques semaines qu'une solution
individuelle serait
trouvée. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure un petit peu à votre 18h30. On prendra un peu plus de temps pour évoquer les nouvelles du front, bien sûr, sur ce dossier Atos qui nous tient en haleine. Et ça n'est pas fini, visiblement. Pendant ce temps, l'État continue ses consultations pour essayer de trouver de nouvelles économies. Ce matin, il y avait une grosse réunion à Bercy pour évoquer des pistes avec les élus locaux. Et les maires l'ont dit très clairement, c'est pas de leur côté qu'il faut chercher de l'argent. Écoutez, André Léniel, c'est le vice-président de l'Association des maires de France.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà les propos très crus ce matin d'André Léniel, le vice-président de l'Association des maires de France. Dans l'actualité ce soir, Bruxelles qui accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Bah aujourd'hui, c'est une enquête contre les gros fabricants chinois d'éoliennes qui a été dégainée par la Commission européenne. En France, dans l'immobilier ancien, on a eu la confirmation que les prix ont continué de baisser au premier trimestre, moins 3,2% sur un an au niveau national. C'est le chiffre que nous donnait ce matin le patron de Century France sur BFM Business. Orpi a donné un chiffre assez similaire ce matin, moins 3%. Le réseau La Forêt, lui, note une baisse de 4,7%. En France, toujours, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisition dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au PFAS. Vous savez, ces polluants éternels dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière sur BFM Business. Et puis, c'est un groupe dont beaucoup disaient qu'il avait bénéficié d'un gros effet Covid, mais que plus dur serait la chute. Le labo Biomérieux vient de présenter un plan stratégique très ambitieux sur 5 ans. Le Lyonnais, en fait, n'a pas fait qu'engranger pendant le Covid. Il a aussi clairement préparé l'avenir. Hélène Cornet.
Biomérieux fait mentir tous ceux qui lui promettaient un retour sur Terre difficile. Le groupe se porte même mieux qu'avant la crise sanitaire, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2019. Le Covid a développé de nouveaux réflexes. Les tests sont devenus une aide complémentaire, voire indispensable au diagnostic, que ce soit dans les maladies respiratoires ou les maladies infectieuses. Le laboratoire lyonnais développe également des tests pour les fièvres tropicales ou contre l'antibiorésistance. Mais le plus prometteur pour Biomérieux, c'est sa nouvelle technologie baptisée Spotfire, lancée l'été dernier. C'est un outil nomade qu'on peut installer dans les hôpitaux ou les cabinets de médecins pour détecter soi-même les virus en 15 minutes sans l'aide d'un laboratoire. En France, c'est très compliqué de l'installer pour des raisons réglementaires, mais le dispositif séduit à l'international. De quoi permettre au groupe de fixer pour la première fois une trajectoire financière sur plusieurs années.
Voilà les nouvelles ambitions de Biomérieux. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Étienne Brac, Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, CAC 40 en baisse ce mardi soir.
Bonsoir. En effet, nette baisse pour le CAC 40 après avoir progressé de 0,7% hier. Marche arrière, moins 0,86% ce soir à la clôture à 8049 points. Du rouge également à Wall Street avec des marchés qui sont en pleine hésitation à l'approche des résultats trimestriels. Ça commencera vendredi aux États-Unis avec les banques, puis mardi à Paris avec LVMH. Vous avez le secteur du luxe qui est en baisse. Pas mal d'analystes qui s'attendent à des ventes stables avec notamment un ralentissement des ventes en Chine. Donc suite à cela, vous avez Hermès qui perd 2,4% à 2282 euros, LVMH moins 1,5%, et puis hors CAC 40, le gadin du jour c'est Atos. Alors hier le titre avait certes pris 20%, et bien aujourd'hui il perd 13% avec le groupe qui souhaite une augmentation de capital de plus d'1 milliard d'euros, sachant que en bourse la valorisation boursière est de moins de 300 millions d'euros, donc ça s'avère sûrement très dilutif dans les semaines à venir. 1,99€ pour cette valeur qui est sur des plus bas historiques. Et puis à l'inverse, une autre valeur qui a connu un parcours compliqué mais qui se reprend, c'est Alstom qui prend plus de 7% à 14,85€. Et donc la Bourse de Paris qui clôture en baisse ce soir, moins 0,86% à 8049 points avant l'inflation américaine demain.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street justement à la mi-séance. L'indice Dow Jones qui perd 0,33%, 38764 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui recule de 0,17%, 16225, 18h10. Le président de la CFE-CGC, François Omeril, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Eddy Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois François Omeril, le président de la CFE-CGC. Vous savez, pendant que nous parlons, les partenaires sociaux sont en train de discuter, d'essayer de trouver un accord. Bonsoir François Omeril.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous parce que c'est assez chaud. Vous avez même gardé votre portable devant vous. Vous allez peut-être pouvoir nous donner des indications parce que les négociations viennent à peine de reprendre. Déjà hier soir, je titrais la négociation de la dernière chance. On avait le sentiment que ça y était. Finalement, ça y était pas. Reprise des négociations à 10h, interruption de séance, renégociation depuis cet après-midi. Et maintenant, vous nous dites quoi, François Omeril?
Je dirais que la fumée est bien grise en ce moment. Moi, la dernière info que j'ai, je vous la donne en direct, c'est qu'on va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute. Mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles, je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes, et finalement pour les salariés, on ne voit rien venir, que des éléments de processus et des formes.
Donc là, vous nous dites globalement, on va vers un échec. Est-ce que les autres partenaires sociaux sont sur la même ligne que vous? Parce qu'on sait que vous êtes très offensif, François Omeril, c'est ce qui fait du reste le succès de la CFE-CGC en ce moment. Est-ce que les autres partenaires sont sur cette ligne-là?
Oui, moi c'est ce que j'ai compris. Alors bien sûr, je n'ai pas autorité pour parler à leur place, mais on voit bien, chacun fait son petit briefing le soir et regarde quelle est la tendance. Oui, je pense qu'on est tous très déçus du manque d'ambition qu'il y a dans cette négociation. Il faut dire qu'on n'est pas aidé par le cadre, on n'est pas aidé par le gouvernement, par les positions qu'il a prises, par la façon dont il est intervenu un peu comme un chien dans un jeu de quilles au moment de la négociation. On n'est pas aidé par le fait que depuis plusieurs années, j'ai pas de problème pour le redire, le patronat, il a un peu perdu la clé du champ de tir de la négociation. Voilà, il a perdu l'habitude.
On avait le sentiment qu'il l'avait retrouvé,
oui.
Justement. Et puis là, est-ce que c'est le nouveau... C'est Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, qui a cette position très dure? En tous les cas, très dur à vos yeux, aux yeux des syndicats. Ce soir, vous ne comprenez pas tellement... dites-le nous, vous ne comprenez
non,
pas tellement la stratégie du patronat.
Moi, je ne veux pas faire de reproches personnels à Patrick Martin ou à d'autres représentants, à François Asselin pour la CPME. Je pense qu'on a une problématique de fond, peut-être beaucoup plus préoccupante que cela. C'est que, et là encore, j'y reviens, pour qu'une négociation entre partenaires sociaux soit équilibrée, il faut que l'État intervienne pour rééquilibrer le rapport de force. Or, l'État intervient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, pour le déséquilibrer. C'est-à-dire, il met toujours...
Ça, c'est quoi concrètement? Parce que là, on ne voit pas très bien, parce que vous êtes en train de vous plaindre, d'habitude, de l'intervention, de, notamment sur les négociations...
Eh bien, je m'en plains, parce qu'il intervient pour le déséquilibrer. Tant qu'à intervenir, il faut qu'il intervienne pour avoir un rapport de force équilibré. En fait, dans une négociation, quand on va négocier avec un représentant des employeurs, que ce soit au niveau interpro ou dans l'entreprise, oui. S'il y a un échec à la négociation et que l'État, pour l'interpro, dit bah, s'il n'y a pas d'accord, moi je reprendrai la position patronale, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la négociation. Donc il faut qu'il y ait un intérêt à la négociation, c'est-à-dire qu'il faut que chacun camps ait quelque chose à perdre au fait qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça la problématique.
Là, c'est la question, je veux dire. Là, c'est quoi? Là, ça bute sur quoi? Ça bute sur le CDI senior, sur le parcours professionnel? Ça bute sur quoi?
Ben, il faut qu'il y ait un partage, en fait. Chacun va avec ses positions.
Vous avez fait 10 propositions. Est-ce qu'il y en a qui ont été retenues par le patronat?
Mais absolument aucune. Absolument aucune. Enfin, il faut regarder les choses. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Donc, les gens vont devoir travailler 2 ans de plus. Ça s'échelonne et ça va venir assez rapidement. Nous, ce qu'on a demandé, on n'est pas les seuls, finalement, on l'a contingenté dans une liste. Il faut avoir en tête, s'agissant de l'emploi des seniors, qu'il faut travailler au maintien dans l'emploi des seniors. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, Gabriel Attal, il parle d'embaucher des seniors et de créer des CDI ad hoc pour ça. Mais ça, c'est pas le problème, en fait. C'est pas le sujet. C'est un problème. Mais c'est pas le sujet. Le sujet est de maintenir les seniors dans l'emploi jusqu'à 64 ans, voire au-delà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des dispositions dans cet accord qui font que, qu'on soit salarié d'une petite PME dans le Var ou qu'on soit agent de maîtrise à Renault Le Mans, par exemple, il faut qu'on puisse accéder à des dispositions qui feront qu'on pourra se projeter sur la fin de carrière, tout simplement. Oui. Parce qu'on ne travaille pas de la même manière et dans les mêmes conditions quand on a 24 ans que comme on a 60 ans. Ça, c'est simple, tout le monde peut le comprendre. Et nous, on dit que c'est l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt bien compris de l'entreprise, de travailler à mettre en place des dispositifs qui vont sécuriser cette fin de parcours. Finalement, travailler sans la crainte d'avoir des conditions de travail insupportables, d'avoir un niveau de revenu qui baisse trop vite, etc.
Et de ce point de vue-là, vous trouvez que le MEDEF ne répond pas à vos attentes?
Il ne répond pas, il n'a pas suffisamment d'ambition dans la négociation.
Vous en déduisez quoi? C'est que le patronat ne veut pas avoir de seniors, en fait? Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, de d'où vous parlez, hein, François Omeril?
Bah, écoutez, ça c'est quand même les faits aujourd'hui. Les gens qui se retrouvent avec ce taux d'emploi, on a en France ce taux d'emploi au-delà de, je ne sais plus quel âge, 60 ans je crois, de 40%. Ouais. Donc c'est quand même quasiment un des plus mauvais niveaux. C'est les gens qui sont à Pôle emploi aujourd'hui et qui attendent.
Les entreprises ne veulent pas changer.
Bah, les entreprises, elles ont pris, les grandes entreprises, ouais. Attention, il faut le préciser, elles ont pris l'habitude de se séparer des personnes à partir d'un certain âge, okay. Et elles font une erreur économique. Parce que ces gens ont de la valeur. Mais simplement, il faut travailler. Eh bien, il faut réfléchir, tout simplement. Il faut faire un effort.
Donc,
c'est
là,
complexe.
Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui va... Donc, vous êtes prêts à aller au clash, là?
Vous savez, le clash...
Non,
le clash.
On dans les négociations, je suis d'accord avec vous. On le sait. Nous aussi, on le sait bien, que tout d'un coup, on a l'impression que c'est complètement bloqué. Et puis, ça se décoince. OK. Mais est-ce que vous êtes prêts, dans ce que vous connaissez, ce que vous dit votre portable...
Ben, il ne m'a rien dit de plus.
Est-ce que vous êtes prêts à aller au clash?
Bah, le problème qui se pose, il faut le dire, c'est que le gouvernement joue double jeu, une fois de plus. Je vais le critiquer encore, excusez-moi. Mais il met la négociation sous contrainte d'un certain nombre d'éléments. Notamment, il a fait rentrer la question de l'assurance chômage par rapport à la négociation. Ce qui, à mon avis, est un peu décalé, mais peu importe. Et donc, nous négocions de façon très loyale avec un certain nombre de revendications et de propositions, par ailleurs très argumentées, qui sont des propositions de valeur économique, et au final on a un accord qui est inconsistant. Ce ne sont que des processus. Je prends un exemple très très simple. Par exemple, nous on demande le fait que la retraite progressive soit opposable. Eh bien, ça n'est pas dans l'accord. Or, pourtant, c'est une évidence. Il faut que la retraite progressive soit opposable. Cette capacité qu'il y a pour quelqu'un à prendre sa retraite de façon échelonnée et qui fait qu'il va aller en biseau, finalement, jusqu'à 64, 65, 66 ans. Eh bien, le patronat nous dit, mais non, pas question. Ce sera à l'employeur de décider. Ben, ça n'est pas possible, en fait. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques pour qu'on puisse avancer.
Mais le gouvernement était plutôt assez favorable à cette retraite progressive, non?
Pour le coup, il l'était. Oui. Pour le coup, il l'était. Donc, si vous voulez, moi j'arrive plus à comprendre.
Ça veut dire qu'il faudra une nouvelle lettre de cadrage, vous pensez?
Ça commence à faire beaucoup.
Oui, mais c'est d'accord, mais...
Ça commence à faire beaucoup. C'est ça. On vit une époque aussi où finalement ce déficit de confiance qu'il y a entre les différents acteurs de la République sociale, ce déficit de confiance fait que, en permanence, on passe sur des recadrages. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner.
Vous confirmez, c'est difficile à suivre.
On devrait fonctionner sur des rôles bien partagés. C'est l'aide de cadrage qui font 3 pages. Bientôt, ce sera un document de 30 pages des lettres de cadrage. En gros, dans la lettre de cadrage, il y aura marqué l'accord. L'accord, il sera marqué, il n'y aura plus qu'à signer.
Oui, parce que moi, ce que je ne comprends pas dans cette négociation que vous faites entre partenaires sociaux, c'est presque la dernière négociation, the last chance, comme on dit, parce que vous avez tous, le couteau sous la gorge, dans le sens où l'État a clairement dit, on va tout reprendre, on va tout récupérer. Donc, vous devriez quand même avoir une pression telle que vous réussissiez à vous mettre d'accord sur quelque chose.
Mais je vous avoue que là, j'ai un petit point d'incompréhension pour ma part. J'ai du mal à interpréter l'attitude du camp patronal, on va dire du MEDEF principalement. J'ai du mal à interpréter cette attitude qui finalement est un peu après moi le déluge. Il me semble qu'on partage suffisamment d'objectifs. Vous citiez tout à l'heure Patrick Martin. Moi, je veux dire que...
Parce qu'on avait l'impression que la ligne était un peu différente avec Geoffroy Roux-de-Bézieux. Alors, le climat était différent.
Le climat était différent. Mais si vous voulez, moi, j'ai aucun problème avec Patrick Martin. Au contraire, je pense qu'on est tout à fait capable de travailler ensemble et de partager des objectifs communs sur la nécessité...
Là, vous n'avez pas pris votre téléphone, vous ne l'avez pas appelé en disant « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» Allez-y, appelez-le.
Écoutez, je lui ai peut-être envoyé des messages. J'attends peut-être qu'il me rappelle. Il est probable qu'on le fera aussi.
Il vous a pas rappelé.
Chacun a son agenda. J'ai le mien. Et puis, on en reparlera. Mais souvent, des négociations interpro se terminent comme ça. Je ne sais pas si ce sera le cas. Parce qu'on est quand même très, très loin de la possibilité de trouver un accord dans lequel... Vous dire quelque chose. Ouais. Un truc très simple. Moi, ma ligne, c'est que quand je suis signataire d'un accord, je le défends. Ça se fait pas de dire j'ai signé parce que j'étais contraint de le faire pour pouvoir opposer au gouvernement une attitude, etc. Ça vaut rien du tout. C'est bullshit. On signe l'accord, on le défend.
Okay.
Parce qu'on dit cet accord, il est bon. Voilà, tout simplement.
Ouais. Là, on va rediscuter de l'assurance chômage. On est d'accord, il y aura peut-être une nouvelle lettre de cadence. La réforme, elle est là, elle a été annoncée par le Premier ministre. Après, il y a des différentes, il y a 3 possibilités. On en parle à longueur de plateau sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de réforme. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous préconisez. Mais est-ce que vous allez vous asseoir autour de la table ou alors est-ce que vous allez pratiquer la politique de la chaise vide?
Alors, 2 choses. D'abord, moi, au nom de la CFE-CGC, je ne fais jamais la chaise vide. S'agissant de l'assurance chômage, j'étais même partisan, pour tout vous dire, avec mon organisation. À l'époque, c'était il y a 6 ans, pour que on négocie sur les conditions de l'assurance chômage avant la lettre de cadrage. Mmh. On aurait créé un précédent intéressant. Il se trouve que pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça n'a pas été possible. Mais ça aurait été un acte politique fort. Et je crois qu'à tout moment, on peut le faire. On a besoin de l'autorisation et du cadrage de personne, en fait, pour pouvoir négocier entre nous les conditions d'indemnisation des chômeurs et les conditions du retour à l'emploi.
Ouais.
Pour le coup, sur la lettre de cadrage qui va nous renvoyer aux dispositions qui ont été annoncées par Gabriel Attal, dans une façon de faire assez grossière, il faut bien le dire, parce qu'en gros, il nous dit, ils font bien ce qu'ils veulent, mais de toute façon, j'ai déjà décidé ce que je vais faire. Et au passage, qu'il a décidé de faire, ce sont des choses qui sont réfutées en termes d'efficacité par des gens qui sont spécialistes d'analyser justement les conditions du retour à l'emploi. Donc en fait, il s'est contredit lui-même, et il a contredit ce que disent les experts sur le sujet. Donc,
et notamment Marc Ferracci qui était là hier soir, c'est ça qui a encore un peu, qui complique un peu l'exercice puisqu'il est vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.
Donc. J'avoue que c'est plutôt original, oui.
Ouais. Là, qu'est-ce qui peut se passer, là? Qu'est-ce qui peut se passer?
Il peut se passer 2 choses.
Est-ce que le 1er mai, il sera unitaire?
Ah, mais c'est une bonne question.
Merci d'avoir posé. Tiens, je vais appeler Sophie Binet et Maryse Léon, d'accord?
Eh bien, écoutez, oui, faites-le. C'est une question qui s'est posée et qui n'est pas tranchée entre nous. Il a été unitaire, vous le savez, l'année dernière, dans un contexte très particulier. Nous, à la CFE-CGC, on n'a pas l'habitude de défiler le 1er mai. Et là encore, moi, je suis porte-parole de l'organisation, donc je tiens la ligne. Pour que on puisse nous participer à un défilé unitaire, il faut un mot d'ordre et une raison particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne défile pas pour défiler, il faut qu'il y ait un motif particulier, une raison, un conflit finalement. Donc il faudra analyser les situations dans lesquelles nous sommes à l'approche du 1er mai.
Si ça se tend, là vous dites on y va.
Écoutez, je ne peux pas vous le dire, c'est une décision collective, mais pour le coup, s'il y a un sujet, s'il y a matière, moi je dis pourquoi pas. Ouais. Il n'y a pas de raison de l'exclure a priori, c'est une question de contexte. Mais il faut analyser les choses de façon relativement sereine et pragmatique, le climat n'est pas bon. Là encore, j'y reviens, c'est la question de la confiance qui est posée. Ouais. Voilà, on ne peut pas être intelligent tout seul dans son coin, il faut qu'on partage. Une négociation doit être équilibrée. Chacun est porteur de sa vérité dans une négociation, chacun apporte des exigences, des propositions, on les partage et on aboutit à un accord. Voilà.
François-Henri, vous n'avez pas de nouveau là sur les négociations en cours. Elles peuvent durer jusqu'à quand ces négociations ?
Alors,
épuisement d'hommes hein, ou quoi ?
Alors, j'ai pas de nouveau.
Non. Donc ça veut dire que ça patine. Oui.
C'est happening votre émission.
Bah oui.
Non, j'ai pas de nouveau. Une négociation en général, ça finit tard dans la nuit. Mais ça finit tard dans la nuit quand il y a une forme d'engagement des délégations. Hein, je vous donne, j'allais dire les petits détails de ce qu'est une négociation interpro. Il y a un moment où les choses basculent dans une négociation où une délégation ou plusieurs vont dire j'approche la zone de signature. C'est très concret. C'est comme une négo commerciale. C'est pareil. On est proche de sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On négocie le détail pour que chacun puisse se déterminer et proposer à son organisation. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est une organisation démocratique dans laquelle on met en débat et au final, au vote, la signature d'un accord qu'on présente. Mais il faut prendre une position. Et donc, les deux processus sont en parallèle. C'est un peu subtil. Mais on ne peut pas non plus dire, bah, moi, je sais pas si je serai signataire. C'est à mon assemblée de décider. D'accord. C'est un peu facile quand même. Okay. Il faut pouvoir s'engager un peu dans le cours de la négociation. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que, au vu de ce qui est proposé, pour nous, ce n'est pas possible de s'engager à ce stade.
Ah ben voilà.
Donc on verra bien ce qu'il adviendra dans la nuit, peut-être demain, s'il y a prolongation.
François Omeril, toute dernière question sur un dossier qu'on suit ici pas à pas, dossier Atos. Si je vous pose la question, c'est que la CFE-CGC est devenue le premier syndicat chez Atos. Vous avez, j'imagine, suivi un peu tous les derniers développements. Ça s'est accéléré ce matin avec Bercy, comité de Bercy, qui dit qu'il va mettre 50 millions, attribués vers le Syrie, puis surtout garder une option d'achat, si on peut dire, une sorte de golden share, sur les activités de supercalculateurs. Il y a eu l'arrivée d'un financier, Walter Butler, aux côtés pour venir épauler une autre solution qui était celle de David Layani. Quelle est la position de la CFE-CGC ?
Alors moi, je ne suis pas un expert du dossier, mais je vais vous donner la position, qui est une position d'ordre général. Vous l'avez gentiment rappelé, on est devenu numéro un chez Atos. Ce n'est pas la seule entreprise, grande entreprise, dans laquelle on est devenu numéro un cette année. La position, elle est simple. Les problèmes d'Atos sont des problèmes financiers, uniquement financiers. Ce ne sont pas des problèmes opérationnels, ce ne sont pas des problèmes de compétitivité, ce ne sont pas des problèmes de technologie, de leadership technologique. C'est une entreprise absolument magnifique. Et nous, ce qu'on dit, il faut réfléchir souveraineté. Et donc, il faut que l'État s'engage, pour le coup, j'en dirai pas plus à ce stade, mais il faut que l'entreprise reste unique. Il faut pas découper l'entreprise. Si on découpe l'entreprise, si on commence à la découper, ça finira comme Alstom avec General Electric. Ça finira par la disparition. Voilà ce que nous, on pronostique.
D'accord.
Après, c'est aux sections syndicales, en fonction de leur environnement et des problématiques d'interaction.
Mais on a compris votre position.
C'est à elles de se déterminer. Mais en tout cas, c'est très clair. On peut pas dire souveraineté et ne pas agir en proportion de cet objectif.
Merci de tous ces propos, François-Henri. On a compris que la situation, elle se tend, c'est même très compliqué, ça devient très compliqué sur cette négociation sur les emplois seniors. Et puis sur Atos, pas de démantèlement, en tous les cas, c'est votre position. Merci beaucoup d'avoir été
merci à vous.
Avec nous. On vous rend justement à toutes ces négociations. François-Henri, le président de la CFE-CGC, était notre invité. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'écho.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business, on vient donc d'en parler longuement avec François Omeril. Les partenaires sociaux continuent de négocier ce soir pour essayer de trouver un accord sur le maintien des seniors dans l'emploi. La discussion a débuté hier matin à 9h au siège du MEDEF, elle se poursuit, on va y revenir bien sûr dans un instant. Le dossier Atos, les choses se précipitent ce matin. Le groupe a donc dévoilé son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Elle est de quasiment 5 milliards d'euros aujourd'hui. Le groupe cherche en parallèle aux alentours de 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Puis l'État par ailleurs s'est confirmé, va prendre ce qu'on appelle une action de préférence sur Bull SA qui est aujourd'hui une partie de la filiale Big Data. et cybersécurité. On en reparle aussi, bien sûr, dans un instant. Bruxelles qui accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Et bien aujourd'hui, c'est une enquête contre les gros fabricants d'éoliennes qui a été dégainée par la Commission européenne. Et puis, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisitions dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au fameux PFAS dont on vous parlait largement la semaine dernière. 19h, 18h32, on va dans un instant avec nos experts. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. Première partie jusqu'à 19h. Mathieu Pechberti est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir. Bruno, docteur associé, chercheur, docteur... comment on dit dans leur vieux, je ne l'ai plus.
Docteur chercheur à l'OFCE.
Docteur en économie,
chercheur associé à l'OFCE. J'en mettais les choses en place, évidemment. Et puis Edwige Chevrillon qui nous accompagne.
Chevrillon et Edwige.
Oui, pardon, excusez-moi, j'en mets les choses en place. Dites-moi, François Omeril, là, il est. On va l'écouter quand même ce qu'il vous disait sur l'assurance chômage, sur l'emploi des seniors. Ben, on écoute et puis on en parle. Allez, écoutez, François Omeril lui-même.
On va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute, mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes. Et finalement, pour les salariés, on ne voit rien venir.
Voilà, ils y sont depuis hier matin. On y est encore ce soir à 18h. Ouais, il a l'air de considérer qu'on va dans le mur, là, très clairement.
Bah, c'est-à-dire qu'il nous expliquait qu'il ne comprenait pas très bien la position du patronat, en disant que suspension de séance, comme il vient de le dire, de 4h30. Et puis là, il a en ce moment, il y a un moment qui va être très important, c'est de savoir s'ils vont s'engager pour la suite des négociations, parce qu'il nous dit c'est comme ça, que c'est des pratiques toujours assez lourdes, assez, voire historiques, très anciennes. Mais bref, donc on s'engage vers une négociation, ça veut dire que là... les gens essayent de dire on va trouver un accord. Et que là, pour l'instant, ils ne sont pas encore là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même très négatif en disant globalement, on va vers un échec. Et ce qu'il ne comprend pas, en tous les cas, c'est la position de la CFE-CGC, de François Omeril, son président, et la position du MEDEF. Il dit, ils ont bougé sur rien. Et donc là, il dit, nous, on ne comprend pas, parce qu'on sait que l'enjeu est assez lourd derrière, parce qu'il y a le gouvernement qui veut récupérer des cagnottes, qui veut reprendre la main sur l'assurance chômage. Donc, on est dans une situation difficile, et visiblement, les syndicats ont l'air un tout petit peu étonnés par la position très dure du patronat.
C'est comprendre. D'ailleurs, vous lui avez posé la question, qui a intérêt dans le mur, fondamentalement, dans cette histoire? On ne voit pas qui a intérêt. Bruno, comment est-ce qu'on va sortir de cette histoire pour vous
J'ai écouté François Omeril avant. Moi, ce qui me frappe, c'est que la moitié de son intervention, c'est sur l'équilibre institutionnel. C'est pas sur le fond de la négociation. Et donc, où il dit, voilà, il y a un déséquilibre, l'État ne cherche pas à rétablir l'équilibre, tout ça. Après, moi, ça, si j'étais le patronat, j'aurais plutôt confiance dans le fait que si ça n'aboutit pas, il y a un certain nombre de choses quand même qui vont aboutir. En plus, le gouvernement reculera probablement sur les impôts de production, puisque bon, il cherche des économies. Donc on voit bien qu'il est dans une position de négociation favorable et que, quelque part, il n'a aucune raison de se mettre la pression. En revanche, il a quand même plutôt...
Il n'a pas pour autant intérêt à ce que tout capote non plus.
Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Il a plutôt intérêt quand même à se mettre d'accord avec les organisations syndicales,
comme ça a été le cas sur l'assurance chômage. Sinon, il joue le jeu du gouvernement.
C'est ça, parce que
comme le gouvernement fait, quelque part veut...
Mais ça lui est pas si défavorable que ça.
Et non, le point... Il faut voir que les organisations syndicales et patronales se sont mis d'accord sur l'assurance chômage. Donc, c'était quand même pas neutre, tout en acceptant, d'ailleurs, la plupart de ce qu'avait fait le gouvernement. Donc du coup,
oui,
on
mais
voit
l'État
bien
n'a
que...
pas signé. Hein. L'État n'a pas entériné.
Non, non mais oui, mais c'est... l'État n'a pas entériné. Non. Mais en tout cas, dans l'équilibre entre les deux, il y a quand même un intérêt à agir. Sur la situation des seniors, on est quand même dans quelque chose de différent. Il faut voir que la plupart des entreprises se comportent bien avec les seniors. Elles gardent les seniors en emploi et le
jusqu'à 60 ans.
Non, mais même après, si on regarde
on
une majorité
plus faible, hein,
non, une majorité d'entreprises ne licencient pas les seniors et les conservent. Après, il y a une minorité d'entreprises. Il se trouve que c'est plutôt des grandes qui jouent un peu avec les règles. Et mais ces aspects sont absents du document de négociation. Par exemple, on sait très bien que il y a des pré-retraites d'entreprises qui s'appuient sur l'assurance chômage, qui est le problème qui crée ce pic de sortie autour de 60 ans. Hein. Et ça doit être résolu. Il n'y a pas un mot dans l'accord. Par ailleurs, dans l'accord aujourd'hui...
Ben non, parce que justement, c'est ce que demandaient les syndicats.
Sur les pré-retraites, j'ai pas compris que ça faisait partie du menu. Après, ce qu'il y a dans l'accord pour le moment, enfin, ce que j'ai vu en début d'après-midi, ce qu'il y a, c'est le paragraphe sur l'assurance chômage. Il y avait deux options possibles. Soit on se cale immédiatement sur les nouvelles bornes d'âge de la réforme de retraite, soit on monte progressivement comme les bornes d'âge. Pour le moment, le chiffre qui est dedans, c'est on se cale directement sur la cible. Mais c'est le tout petit, ça fait près une demi-page dans les 44 pages qu'il y a pour le moment sur la table.
Et ça, c'est la position justement, c'est la position du MEDEF, du patronat.
Oui, bien sûr.
Voilà. Que je veux... Non, mais donc c'est là où ils ont mis dans le document, le nouveau document, si vous voulez, il y a mis des choses qui représentent vraiment des lignes rouges ou des chiffons rouges, si vous voulez, pour les syndicats. Ouais, c'est là où on est dans une logique. Pourquoi ils font ça?
Alors il y a le CDI senior qui est plus un chiffon rouge. Enfin, il y a plus de chiffons.
On appelle plus d'ailleurs
rouge.
CDI senior. Ouais. On a changé de dénomination. Emmanuel, comment est-ce qu'on va sortir de cette histoire entre des syndicats qui parlent de retraite progressive et puis le patronat qui brandit toujours ce CDI senior qui a changé de dénomination au passage?
Je crois qu'il y a plusieurs degrés de priorité et d'importance en fait. Effectivement, Bruno l'a dit. Le premier sujet, parce que c'est quand même le sujet clé quasiment pour l'économie française, c'est faire travailler davantage les seniors. Si vous remettez la France sur les standards européens, vous résolvez énormément de problèmes.
150 milliards d'euros en tout cas, voilà, c'est le chiffre que rappelait
quasiment 2 millions d'emplois. C'est quasiment 2 millions d'emplois en plus. Et on a déjà vu qu'en augmentant le taux d'emploi des seniors, ça augmentait le taux d'emploi global. Et donc, il n'y avait pas de crainte finalement de substitution en disant, bah oui, mais ces seniors en emploi, ils vont prendre l'emploi de quelqu'un d'autre. Le deuxième point, par ordre d'importance, c'est effectivement, est-ce qu'il va y avoir un accord ou pas? Et là, pour toutes les raisons politiques qui ont été évoquées, bah, c'est important parce que est-ce que l'État reprend la main ou pas? Et puis, honnêtement, les points sur lesquels ils discutent dans l'accord, il y a quand même énormément de choses qui sont anecdotiques, qui sont imperceptibles même pour l'œil du DRH d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement abstraites.
Ce que vous êtes en train de nous dire en filigrane, c'est quand bien même on aurait un accord ce soir, ça serait pas le grand soir, quoi.
Non, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a, il y a encore énormément de changements culturels à faire dans les entreprises. Quand on a eu cette culture, effectivement, de la suppression d'emplois par le départ, finalement, des seniors, c'était quand même tout le temps eux qui étaient visés. Bruno a cité les grands groupes, mais les grands groupes, systématiquement, quand ils décidaient de supprimer des emplois, ils faisaient partir des gens en retraite anticipée. Oui. Et donc, si vous voulez, cette logique qui a consisté à toujours s'en servir comme variable d'ajustement, ça met beaucoup de temps à changer. C'est en train de changer. Les pénuries de main-d'œuvre.
Je ne sais pas si c'est en train de changer.
Si, bien sûr que si. Ça change.
Ça bouge.
Ça change même très vite. Ça change même très vite. Quand vous êtes confronté aux pénuries d'emploi, quand vous êtes confronté à cette difficulté
les entreprises sont confrontées aux pénuries d'emploi.
On a tous les ans des chiffres qui progressent. C'est-à-dire, quand vous voyez le taux d'emploi des seniors et même les plus de 60 ans,
ça s'est amélioré entre 55 et 60 ans.
Qui progresse. Et la réforme des retraites va faire effectivement sans doute que ça va encore augmenter. Donc moi je pense que l'enjeu c'est vraiment, si on veut y voir un enjeu, c'est cet enjeu politique, accord ou pas, mais je suis d'accord avec ce que dit Bruno, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le MEDEF il est dans un fauteuil, il est en position de force et que il est gagnant le MEDEF. S'il n'y a pas d'accord,
Quoi, l'assurance chômage,
le gouvernement
va
prendre la main et qui fera des choses qui sont plutôt assez conformes à ce que souhaite le MEDEF. Et s'il y a un accord, il est toujours dans le jeu avec les partenaires sociaux. Donc je pense que
gagnant-gagnant.
Le,
quoi, voilà.
le, le MEDEF, il joue le rapport.
Pas du tout cette lecture, ça. Mais oui, je pense pas. Je vois pas en quoi il est gagnant-gagnant. Il est gagnant, si les partenaires sociaux se mettent d'accord, donc ok. Mais si jamais il y a un clash, ils se mettent tous en position de faiblesse par rapport au gouvernement.
Et non, parce qu'il dirige la politique que va mettre en place Emmanuel Macron, c'est une politique qui sera plutôt le balancier ira plutôt vers le MEDEF que vers les syndicats de salariés.
Oui, enfin si.
Bien évidemment.
Ouais,
et puis il y aura pas de clash. S'il y a une négociation, si ça échoue, je pense que tout le monde fera attention à ne pas incriminer l'autre côté de la table.
Bon, ouais. Eh bien, écoutez, on verra.
À suivre.
Oui, oui.
On verra.
On ne peut dire que ça à ce stade, effectivement, puisque la discussion a repris en fin d'après-midi. On est peut-être parti encore pour quelques heures, nombreuses heures de discussion. C'est longtemps qu'on n'avait pas comme ça une négociation entre partenaires sociaux jusqu'au bout de la nuit, effectivement. C'était tradition à l'époque. Ça s'est un peu perdu, mais de temps en temps, il y en a quand même un petit peu. Parlons d'Atos. Point du jour. Alors, les choses se décantent un petit peu. Mathieu Pechberthier est avec nous. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Un accord avait été trouvé, plan de refinancement, tout du moins annoncé par le groupe, qui veut réduire de moitié sa dette, qui est de 5 Beaucoup, milliards hein. d'euros, quasiment. Ouais. Qui cherche de l'argent frais. Et alors, l'autre subtilité, c'est que l'État, ça se confirme, va se mêler de la partie pour sécuriser autant que possible les actifs sensible, Mathieu, tout ce qui est cyber, les supercalculateurs aussi, évidemment.
Oui, vous savez que ça fait maintenant plusieurs mois que l'État dit qu'il surveille effectivement les activités sensibles d'Atos. Je rappelle que dedans, il y a des contrats de cybersécurité avec le ministère des Armées, des contrats dédiés aux supercalculateurs d'Atos, en tout cas qui sont utilisés notamment par des institutions publiques importantes comme le commissaire à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, des contrats qui sont liés au contrôle commande, qu'on appelle le contrôle commande, en tout cas au pilotage de certaines centrales nucléaires d'EDF.
Bref. Parce que la France sait faire en Europe, faut le rappeler. Hein.
Oui, exactement. Et donc, c'est effectivement stratégique pour le gouvernement. Et donc, le gouvernement avait dit qu'il ferait en sorte qu'elle soit protégée. On savait pas bien comment il allait se débrouiller, sachant que le gouvernement ne veut pas, en tout cas, veut à tout prix éviter de mettre un euro dans ses activités. Et donc là, ce matin, ce qu'il annonçait, c'est un outil assez habituel qui s'appelle l'action de préférence. Donc en fait, le gouvernement va acheter une seule action de cette société qui détient tous ces contrats, qui est l'ancien Bull.
L'ancien Bull.
Ceux qui ont connu, en tout cas, qui avait été racheté par Atos il y a 10 ans maintenant. Tout
par Thierry Breton.
Par Thierry Breton, absolument. une bonne acquisition de Thierry Breton.
Qui avait privatisé Bull, absolument.
Ah oui, absolument. Oui. À la fin des années 80, absolument. Et donc, avec cette action de préférence, l'État va pouvoir avoir des droits spécifiques. Un droit spécifique, c'est-à-dire, il aura un représentant au conseil d'administration de la filiale française de Bull, qui aura un droit de regard, qui va pouvoir avoir un œil sur les comptes et qui aura, alors pour le moment il n'en a pas, mais qui va pouvoir négocier les droits de veto sûrement sur les décisions stratégiques pour éviter qu'il y ait des débordements. Et l'ultime, en tout cas, décision que l'État a mise en place, qu'il n'a pas réalisée, c'est un droit de préemption sur cette activité. C'est-à-dire que si, par malheur, du point de vue de l'État, il y avait un actionnaire non désirable ou non désiré qui montait au capital d'Atos, l'État peut forcer la main d'Atos et récupérer cette activité, la racheter évidemment, pas gratuitement. Enfin, tout ça est à discuter, j'ai pas les détails des accords, mais l'idée c'est effectivement de préempter et de pouvoir finalement renationaliser une partie de cette activité d'ambule.
Mais il faut quand même qu'un groupe reprenne ses activités ultra-sensibles.
Ah bah c'est toute la question, mais voilà. Comme l'a si bien dit
Alors pour le moment,
Mathieu.
Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette décision de l'État, avec cette action de préférence pour gérer finalement à la fois à distance et avoir un œil sur ses activités, c'est qu'en fait, cette activité dite BDS, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, la cyber et les supercalculateurs vont rester en fait dans Atos. Parce que les candidats qui pouvaient s'y intéresser, Airbus y a renoncé à deux reprises, Thales ne veut plus en entendre parler, et Dassault Aviation, à un moment donné, je pense qu'ils feront un effort, notamment pour un petit bout qui concerne le Rafale, et donc c'est important pour eux, mais ils ne rachèteront pas toute cette activité. Et donc finalement, on est en train de se faire à l'idée que cette activité sensible restera dans Atos, avec les repreneurs,
Qui est assez nouveau, du reste.
Mais que l'État aura toujours une sorte de... c'est comme le fil rouge pendant la guerre, sur ces activités pour les contrôler à distance. Voilà.
C'est ça qui est le plus nouveau, je trouve, dans le dossier, à part tout ce que vient de détailler Mathieu, sur l'étendue des dettes, le rôle des créanciers, etc. Mais là, avant, on parlait que de découpage. Vous avez BDS, l'infogérance, etc. Là, on a le sentiment que la petite musique, elle a changé et qu'on est plutôt maintenant dans la reprise intégrale d'Atos, quitte à, évidemment, en fonction de la couleur du repreneur, de savoir si l'État fait jouer cette action dont on vient de parler, Mathieu. Ça, c'est assez nouveau parce que ça change déjà le périmètre, ça change peut-être les moyens. On sait que David Layani s'est fait épauler par Walter Butler. On en parlait hier. Il y a peut-être toujours Kretinsky ou pas. A priori, il n'est plus. Enfin, moi, je dis, ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Mais on ne sait jamais. Et donc, peut-être que pour David Layani de se faire épauler par Walter Butler, qui sait faire la restructuration de l'entreprise.
Ça a été salué par les marchés.
C'est ce qu'il a fait. Ça a été salué par les marchés, on en a parlé. C'est peut-être là, lui, il a sans doute envie de reprendre l'ensemble d'Atos. Et là, ça change la donne. Et en plus, ça corrobore un peu ce que nous disait aussi François Amril dans la CFE-CGC, sachant que la CFE-CGC est devenue le premier syndicat chez Atos.
On est sur des activités ultra-sensibles qu'on ne peut pas recaser dans un groupe à part entière seul, parce qu'apparemment, ça offre très très peu de synergie, donc il faut...
Tout le monde a un peu essayé, et puis d'ailleurs, Atos préfère les garder en interne, parce que c'est des activités qui sont, pas toutes, mais qui globalement dégagent des marges.
Du business,
Et donc du coup, si vous gardez cette activité, ça vous fait un peu plus des marges pour supporter un peu de dette, donc ça fait moins mal.
Bruno Coquet.
Soit il y a des synergies, soit il n'y en a pas, effectivement, et donc du coup, on peut penser qu'il y en a. Layani, c'est ce qu'il dit, c'est ce que dit François Omeril. Un certain nombre d'acteurs racontent ça. Après ça, François Omeril disait qu'il n'y a pas de difficulté opérationnelle. Moi, j'ai quand même entendu que l'infogérance nécessitait de la confiance des clients, parce que c'est un engagement sur
bien sûr, long terme.
Et donc, du coup, si le chiffre d'affaires baissait dans ce domaine, qui est un gros bout du chiffre d'affaires d'Atos, il y avait quand même un sujet de confiance qui nécessite d'être pris en main. Et donc, du coup, il faudrait quand même une solution assez rapidement.
Edwige.
Non, moi, je peux. Je pense que là, on a franchi une étape. Maintenant, on avance dans ce dossier. Et que maintenant, ça devrait déboucher peut-être quand même un peu plus rapidement. Il faut voir si les créanciers, quel va être le poids des créanciers dans le capital d'Atos.
Il y a 5
milliards. Quel rôle ils vont jouer ? 4 milliards 8.
Ouais, 4 milliards 8, dont les deux tiers arrivent à échéance à la fin de l'année 2025, ça. Donc c'est demain, C'est demain.
Oui, il faudra un accord d'ici le mois de juillet. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand même, sur l'activité d'Atos qui a été publiée ce matin, qu'on a peu regardé, mais quand même, elle est mauvaise. L'activité d'infogérance perd 6% en chiffre d'affaires.
Les clients sont partis.
Le groupe perd 2% globalement. Et le groupe écrit très clairement qu'il y a des renouvellements de contrats qui ne sont pas faits et qu'ils n'arrivent pas à avoir de nouveaux clients.
Mais c'est normal,
Oui, c'est normal, mais dans ces activités, vous faites des
comptes. Qui va signer ?
Non, mais je dis ça parce que c'est pas juste. Dans ces activités où les contrats sont pluriannuels, quand vous perdez un client, pour le rattraper ensuite, il va falloir attendre quand même un certain temps. On a beaucoup parlé de ça l'année dernière, lors de la restructuration de Casino, où là, les clients qui quittent le supermarché, ils reviennent plus rapidement. On n'est pas sur les mêmes business.
Bon, Emmanuel Le Chip, qui voue à ce dossier d'admiration sans feuille.
Non, je m'informe tous les soirs auprès de Mathieu.
Le champagne est au frais quand ce dossier sera terminé.
Bon. Non, mais il y a l'idée d'avoir bouclé tout ça pour cet été, le refinancement.
Tout à l'heure, je vous rappelle que Atos, c'est dans une procédure de conciliation, sous l'égide d'une administratrice judiciaire, Hélène Bourboulou. Et donc, c'est réglementé et ça va durer jusqu'au mois de juillet au plus tard.
Bien. À bon entendeur et à ceux qui sont intéressés.
On aura nos vacances après.
Voilà, exactement. Merci Mathieu Pechberti qui est passé nous donner les nouvelles du front sur ce dossier Atos. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous rappeler que l'État cherche de nouvelles économies. Vous savez que Fitch et Moody's vont se prononcer sur la dette française dans 10 jours. Demain, échéance très importante, Bruno Le Maire présente la nouvelle trajectoire budgétaire de la France. Vous savez, comment allons-nous aller ramener nos déficits publics sous les 3% du PIB en 2027? Il y croit toujours. Et alors ce matin, il y avait une réunion à Bercy avec les représentants des collectivités locales pour chercher des pistes d'économie. Écoutez André Léniel, vice-président, vous savez, de l'Association des maires de France, qui nous l'a dit, comme il l'a dit très clairement à Bercy, c'est pas la peine d'aller chercher des économies du côté des collectivités locales et des municipalités. Écoutez.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards. Et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains... ils sont en grave difficulté. Donc, le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Vous voulez faire des collectivités locales des agents de la récession. C'est fort ce que dit André Laniel, là, quand même. Est-ce qu'il faudrait taper les collectivités locales?
C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas rendu, parce que effectivement, le problème, c'est pas que d'un côté, elles dépensent trop et que ou de l'autre côté, elles ont plus de sous. C'est qu'elles dépensent n'importe comment. C'est-à-dire qu'en gros, on est quand même sur le niveau de service public qui, avec sans doute certains pans du secteur de la santé, effectivement, sont des secteurs sur lesquels on pourrait faire des économies considérables. Moi, je veux bien que les municipalités soient à Lens, mais à ce moment-là, où est-ce qu'elles trouvent l'argent pour payer les salaires des 60 000 fonctionnaires qui ont été embauchés l'an dernier?
Voilà, c'est-à-dire ce que j'allais dire.
On est vraiment là, on marche totalement sur la tête. C'est-à-dire que prétendre que dans les collectivités où on sait très bien que c'est là qu'on travaille le moins, que c'est là qu'il y a le plus d'absentéisme, que c'est là qu'il y a le plus, grosso modo, de fonctionnaires qui ça coule douce, c'est quand même.
Et là,
je caricature un peu, mais c'est là où il y a le plus aussi de doublons. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez 3, 4, 5 échelons de collectivités territoriales différentes à valider, là où ailleurs il en faut que 2 ou 3, c'est tous ces sureffectifs-là. Donc moi, je veux bien que les collectivités soient à l'os, mais enfin, il y a quand même là du souci à se faire sur les pistes d'économie et sur notre future trajectoire.
Ça, on verra demain.
Budgétaire. Il y a un très beau graphique que j'aurais pu vous montrer. Vous savez, c'est depuis 30 ans, ce graphique en U, comme ça, qui se décale tous les ans. Ça fait des vagues.
Ah bah vous l'amènerez demain, puisqu'on parlera demain
de toutes ces trajectoires promises de déficit qui reviennent jamais.
C'est bien sur les effectifs qu'on les a un petit peu titillés aujourd'hui, justement.
Pas beaucoup, mais il y a de quoi, du reste, parce que c'est là où était. C'est l'essentiel de l'augmentation de la fonction publique et l'augmentation des dépenses publiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est ça, Emmanuel a raison, même s'il caricature peut-être un tout petit peu. Mais il faut bien. Ce qu'on peut dire sur les collectivités locales, c'est que toutes les réformes qui ont été faites pour simplifier, ça rejoint là encore ce que disait Emmanuel, et bien en fait, ça a conduit à quoi? À empiler, à faire un millefeuille de
plus. La réforme Hollande, une catastrophe.
Une catastrophe, alors que c'est censé, au contraire, clarifier les rôles des uns et des autres, des départements, des régions, tout ça. L'intercommunalité, je ne sais pas si vous allez dans les villages, à la campagne, mais je veux dire, c'est l'enfer. C'est-à-dire que tout, rien n'a été supprimé, si ce n'est le service rendu, mais en revanche, tout a été empilé. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans un schéma ubuesque. Et quelque part, ils ont raison. Et en même temps, c'est vrai qu'on leur a supprimé quand même beaucoup de revenus.
C'est vrai. Bruno, on en redira un mot tout à l'heure, mais allez-y, oui. Bruno, si vous voulez dire un mot sur.
Moi, dans le millefeuille, là, on a la tranche du bas, là, on a la feuille du bas, puisque c'est les communes. Bah, oui. Et il y a aussi les départements, les intercommunalités, les régions, les établissements publics comme le Grand Paris, qui font la moitié du déficit des collectivités locales cette année.
C'est vrai que ce n'est pas les communes qui font
le plus. Île-de-France Mobilité. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'il y a de l'hétérogénéité. En même temps, je pense qu'il y a des choses qui sont plutôt bien gérées, puis d'autres plutôt mal gérées. Mais de toute façon, ils vont passer à la casserole, hein, comme tout le monde. L'État va prendre tout ce qu'il peut pour combler son propre
déficit. Les taux se resserrent, Edwige, pour
conclure. Alors, on va voir, taux se resserre. Juste un point important. Il y a quand même eu un grand désaveu de Bruno Le Maire. Il faut quand même le souligner. On verra demain un peu comment la journée se passe. Ouais. Parce que lui, il aurait demandé, en tous les cas, c'est ce que révèlent nos confrères les Échos, mais enfin, ça n'a pas été démenti. Et ça corrobore un peu, et puis ça explique peut-être, ça éclaircit la stratégie politique de Bruno Le Maire. C'est qu'a priori, des membres du cabinet de Bruno Le Maire auraient essayé de convaincre des parlementaires de demander une loi de finances rectificative. Oui. Ce à quoi aussi bien Emmanuel Macron que Gabriel Attal
ont dit
non, non et encore non. Donc il a quand même essayé et il s'est repris un vent, si vous me permettez cette expression. Et là, c'est intéressant de savoir est-ce que ça affaiblit beaucoup Bruno Le Maire et pourquoi.
Voilà. On verra demain.
Ça dépendra de la trajectoire de croissance qui va se dessiner
tout au long de l'année. C'est pour ça.
Si les perspectives de croissance 2024 tiennent à peu près la route, effectivement, il n'y aura peut-être pas besoin d'un rectificatif. Mais, et les indicateurs sont plutôt pas mauvais pour le moment. Bon. Mais si jamais la croissance déçoit, on n'y échappera pas.
On verra demain le petit schéma de Bruno Le Maire, la nouvelle trajectoire, comme on dit. Mmh. C'est un nom assez barbare, j'ai oublié. Le Pistab. Pistab, ça s'appelle dans le jargon de Bercy. Un mec, votre petit schéma, puis on verra ce que ça donne.
Je vous amène ça.
C'est terminé, 18h58. Merci Emmanuel. À demain. Bruno Coquet revient dans un quart d'heure. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Alors ça ne sera pas sur le budget, ça sera sur la cyberattaque, l'IA,
les violations de données, puisque c'est la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, qui sera avec nous. Elle a un rôle clé. Certains disent qu'il faut qu'elle joue un rôle encore plus clé avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Elle nous dira comment, et puis comment éviter qu'on n'arrête pas de nous piquer nos données personnelles.
Et voilà, voilà. La patronne de la CNIL
première fois demain.
18h10. Merci beaucoup, 18h59. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business, bien sûr. À tout de suite.